Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Eh bien, c'est déjà la dernière de cette saison 2020-2021. La dernière de Biotine sur l'antenne de Graphite, l'émission de l'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h pour se tenir informé de l'actualité scientifique. Cette année aura été quand même finalement assez bien complète au niveau de l'actualité scientifique. Bien sûr, la crise sanitaire, et on a découvert quand même pas mal de mots et pas mal de métiers depuis quelques mois maintenant avec cette crise sanitaire qui n'est pas finie. Il faudra bien sûr faire tout un bilan de ça, et je pense que l'année prochaine, la saison prochaine, nous permettra peut-être de revenir sur certains éléments de cette épidémie. Il y a des articles qui commencent à sortir, évidemment. Il faudra du recul pour pouvoir analyser un petit peu tous les résultats que l'on a suite à cette pandémie. Mais en tout cas, voilà, on évoquera ça plutôt la saison prochaine. Et puis, il y a eu l'espace aussi, bien sûr, qui était quand même l'actualité de cette année, qui est l'actualité aussi de ces dernières années et qui sera l'actualité de cette décennie 2020. Je vous le dis déjà depuis un bon bout de temps, la décennie 2020 va être formidable au niveau de l'espace. Il y a plein de choses qui se mettent en place. La Lune, Mars, bien sûr. On a évoqué ça dans cette émission tout au long de cette saison. Donc une saison bien complète avec au niveau médical, au niveau technologique, des objets connectés, au niveau des énergies, au niveau du développement durable, du réchauffement climatique. On a parlé de ça pendant toute cette année, tous les samedis, entre 12h et 13h. On a presque réussi à assurer l'ensemble des émissions, malgré les différents confinements, et c'est tant mieux. Merci de votre fidélité pour cette émission Biotine tous les samedis sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Vous avez également la possibilité, vous le savez, de pouvoir récupérer tous les podcasts de cette émission et puis de toutes les émissions de Graphite, bien sûr, et de suivre l'actualité de Graphite sur la page Facebook, entre autres, et aussi le compte Instagram. Nous sommes pour cette dernière émission de la saison le 26 juin. Et au niveau de l'éphéméride, plusieurs choses quand même. Le 26 juin 1794, c'est la bataille de Fleurus qui voit la première utilisation militaire d'un ballon d'observation. C'est une première dans l'histoire de l'aérostation. Henri Moisson décrit le fluor, c'est le 26 juin 1886. Au XXe siècle, pas mal de choses. En 1925, le Canadien Edward Rogers invente la première lampe de radio à courant alternatif qui permet d'alimenter les postes avec le courant domestique. En 1936, c'est le premier vol du Focke-Wulf. C'est le premier hélicoptère fonctionnel en 1936. 1974, le premier produit doté d'un code-barre qui est scanné dans une caisse de supermarché. C'est en fait un paquet de chewing-gum. C'est dans l'Ohio, dans un supermarché de la ville de Troy. C'était en 1974, le premier code-barre. Je ne pensais pas que c'était si vieux. Et voyez, donc ça a presque 50 ans. Enfin, plus proche de nous, en 2016, l'inauguration du canal de Panama élargi. Et cela en présence de 70 chefs d'État et de gouvernement. Naissance. Qui est né un 26 juin ? Charles Messier. Il est né un 26 juin 1730. C'est un astronome français. C'est un éminent chasseur de comètes. Il est renommé pour avoir créé le fameux catalogue d'objets du ciel profond qui porte son nom, le catalogue Messier. Charles Messier, donc, né le 26 juin 1730. Décès le 26 juin 1793. On reste dans le 18e siècle. Celui de Gilbert White, naturaliste, ornithologue britannique, qui peut-être être considéré comme un pionnier de l'écologie. Il a rédigé la Natural History, c'est un best-seller, c'est le livre britannique qui s'est le plus vendu. Après la Bible et les œuvres de Shakespeare, eh bien, on achète le Natural History de Gilbert White, qui est donc décédé le 26 juin 1793. Alors c'est rédigé dans un style un peu livresque quand même pour cette histoire naturelle, mais il a contribué quand même à populariser l'étude des oiseaux. Il a suscité de très nombreuses vocations d'ornithologues. Les ornithologues, ce sont ceux donc qui étudient les... Voilà, c'est donc le décès de Gilbert White pour cette éphéméride. Il y avait deux informations que je n'avais pas eu le temps d'évoquer la semaine dernière. Non, il y avait une information essentiellement, pardon, qu'on n'avait pas eu le temps d'évoquer. C'est concernant cette maladie du cancer du pancréas. Un cancer qui est plutôt rare en France, nous dit-on. Moins de 2% des cancers cancers, pardon, mais son incidence augmente depuis quelques années. C'est une maladie très virulente parce qu'on considère que moins de 10% des malades survivent à leur cancer après 5 ans. Alors si l'état du patient et la taille de la tumeur le permettent, la chirurgie est le premier moyen de traitement du cancer du pancréas, sinon ce sont des traitements de radiothérapie et de chimiothérapie qui sont utilisés. Alors il y a des chercheurs allemands de l'université de Munich qui sont en train d'explorer une autre voie, c'est celle de l'immunothérapie. Le but, en fait, c'est d'utiliser le système immunitaire pour pouvoir attaquer les tumeurs au niveau du pancréas qui vont proliférer rapidement. Mais ces tumeurs sont soutenues, elles sont parfois masquées par un espèce de tissu qui les entourait, qu'on appelle le stroma tumoral, et ça empêche un petit peu les molécules thérapeutiques d'atteindre leur cible. Mais on apprend que les lymphocytes, qui font donc partie du système immunitaire, peuvent contourner cet obstacle s'ils arrivent à suivre les bonnes indications. Et donc, ces chercheurs allemands ont modifié un petit peu ces lymphocytes T pour qu'ils puissent porter un récepteur spécifique qui vont donc pouvoir guider vers les cellules qui sont directement concernées. Et les lymphocytes pourront donc céder ces cellules tumorales à partir du moment où ils arrivent à atteindre directement ces cellules. Alors, à l'issue de plusieurs expériences qui ont d'abord été menées sur des souris atteintes du cancer du pancréas, eh bien les chercheurs ont obtenu des résultats véritablement prometteurs, si bien que les lymphocytes T qui ont été modifiés, ils ont démontré leurs propriétés antitumorales, c'est ça qui était important, et aussi le taux de survie des animaux a augmenté de façon significative. Alors bien sûr, les chercheurs espèrent voir un jour ce protocole faire l'objet d'un essai clinique sur des humains, bien évidemment. Ils en sont qu'au début du parcours. C'est très souvent le cas quand on évoque dans cette émission une découverte thérapeutique. Il va falloir bien évidemment faire un protocole expérimental assez contraignant mais nécessaire pour pouvoir ensuite essayer de développer une thérapie au niveau de l'homme. Mais en tout cas, il y a une piste vraiment intéressante concernant ces lymphocytes T qui permettrait peut-être de détruire de façon plus efficace le cancer du pancréas. Voilà, c'est une information qu'on n'avait pas eu le temps d'évoquer la semaine dernière. Et donc, pour cette dernière de la saison, il me semblait important de pouvoir l'évoquer. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Gravité Scientifique et un peu aussi de musique.
You say the world is ready for us.
Faded Now, c'était Chromatics sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Il y a une petite étude assez intéressante que je voulais évoquer concernant les enfants précisément âgés de 3 à 6 ans. On considère qu'ils passent en moyenne près de 2 heures par jour devant les écrans. C'est une étude française qui date de 2015. Ici, il y a de nombreux chercheurs qui ont mis en évidence des liens entre le temps passé à regarder ces écrans et le développement cognitif de l'enfant. Il y a peu d'études qui ont orienté leur recherche sur le contexte des usages. Et donc, des chercheurs de l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, ces chercheurs identifient une association entre le fait que la télévision soit allumée en permanence au moment des repas familiaux et un plus faible développement du langage. Ce lien aurait été fait. Les résultats de l'étude font l'objet d'une publication dans la revue Scientific Reports. Le langage, c'est une pratique sociale et l'interaction humaine joue un rôle important dans son acquisition. Et donc, le développement du langage des enfants est ainsi grandement influencé par leur environnement immédiat, c'est-à-dire donc par les interactions qu'ils peuvent avoir avec leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, ainsi qu'avec leurs parents, pardon, leurs frères, leurs sœurs et les autres enfants. Je vais y arriver. Et au cours des dernières décennies, les écrans sont devenus incontournables dans cet environnement. Même les enfants d'âge préscolaire passent un temps considérable à les regarder. Alors, grâce au suivi sur plusieurs années d'enfants issus d'un groupe français, et bien des chercheurs de l'INSERM et de l'Université de Paris, l'Université de Paris ont pu mesurer un petit peu les temps d'exposition aux écrans et de façon un petit peu plus spécifique la fréquence d'exposition pendant les repas en famille, qui sont des moments clés d'échanges verbaux entre les adultes et les enfants. Et donc, des évaluations du langage ont été menées un petit peu en parallèle afin d'identifier un peu la manière dont le contexte de l'exposition aux écrans peut avoir une influence sur le développement du langage chez les enfants. Alors, pour mesurer ces temps et ce contexte d'usage des écrans, il y a des questionnaires qui ont été remplis par les parents et on a mené une étude sur un petit peu plus de 1500 enfants, ce qui est quand même assez conséquent, ça peut être intéressant. Ces enfants ont 2, 3 et 5 ans. Et donc, dans le cadre de l'étude, les parents ont notamment renseigné la fréquence à laquelle la télévision était allumée pendant les repas. Pour le temps d'écran des enfants, seuls les temps passés devant la télévision, devant l'ordinateur et les jeux vidéo ont été considérés. Et l'évaluation du langage des enfants a été effectuée grâce à des questionnaires remplis par les parents quand les enfants étaient vraiment petits et ensuite par des psychologues lorsque les enfants avaient 3 ans minimum. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le protocole expérimental, pardon. Et afin de tenir compte du rôle social joué par d'autres facteurs, il y a également d'autres variables qui ont été pris en considération dans cette analyse statistique. Le caractéristique socio-économique de la famille, c'est-à-dire le revenu, le niveau d'études des parents. Les caractéristiques aussi liées à l'enfant, le sexe, le mode de garde, l'activité avec les parents. Et on a donc croisé un petit peu toutes ces données. Qu'est-ce qu'on révèle ? Eh bien, qu'une fréquence plus élevée de télévision qui est allumée pendant les repas de famille était associée à de moins bons résultats en matière de langage. Donc voilà, c'est une étude française de l'INSERM qui fait un lien direct entre la télévision allumée pendant les repas et le développement du langage plutôt ralenti chez les jeunes enfants. Par contre, le langage de l'enfant ne semblait pas directement lié au temps qu'il passe devant les écrans, en fait, dans une approche qui va analyser ses relations à chaque âge, eh bien, on se rend compte que le niveau de langage à 2 ans était plus faible chez les enfants qui sont toujours exposés à la télévision pendant les repas de famille par rapport aux enfants qui ne l'étaient jamais. Et l'exposition à la télévision pendant les repas familiaux, ça a été évalué un petit peu, mais du coup, c'est pas nécessairement le temps passé devant, c'est uniquement le fait que la télé soit allumée, ce qui peut avoir un impact, bien sûr, sur les échanges verbaux qu'il peut y avoir pendant cette phase de repas. Et des résultats qui encouragent donc à mieux prendre en compte le contexte dans lequel s'inscrit l'exposition aux écrans et donc pas seulement sa durée. Bien que les enfants soient exposés au langage par l'intermédiaire des dessins animés et par les programmes qu'ils peuvent voir aussi à la télévision, eh bien l'interaction verbale entre l'adulte et l'enfant est fortement associée à un meilleur développement du langage de l'enfant. En clair, eh bien, si les parents discutent avec les enfants, ça aura un meilleur impact que si personne ne parle et tout le monde regarde la télévision. La télévision pendant les repas peut donc constituer un frein aux interactions verbales, ce qui semble évident. C'est ce qu'explique Jonathan Bernard, qui est donc l'un des auteurs de cette étude. Bref, la télévision allumée au cours des repas familiaux peut avoir à la fois un effet sur l'enfant en le distrayant et sur les parents en détournant les conversations avec leurs enfants. Et ces stimulations auditives, visuelles peuvent augmenter les distractions des enfants et des parents dans leur environnement familial et accroître un petit peu les difficultés pour un enfant d'extraire d'un fond sonore les distinctions assez intéressantes et caractéristiques propres à la langue, nécessaires à la qualité de son apprentissage. Si on est dans une espèce de logorée verbale de la télévision, il est certain que l'enfant va avoir plus de difficultés que si on s'adresse directement à lui par le biais d'un dialogue. Donc, cette étude de l'INSERM, quelque part, je l'ai dit, c'est un petit peu du bon sens, sauf que voilà, c'est une étude qui apporte cette fois un crédit scientifique à ce que l'on pouvait un petit peu envisager au départ. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement non plus une information. Ça semblait quelque part un peu évident. Mais voilà, donc pas de télévision. Par contre, la radio, après tout, pour l'instant, on n'a pas démontré le contraire. C'était Waouh avec... c'était Meat Bodies avec Waouh. C'est plutôt dans ce sens-là sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine pour cette dernière émission de la saison 2020-2021. Vous êtes prêts à partir en vacances? Et vous avez raison, ça va nous faire du bien. On a besoin de vacances, mais faites attention de ramener des souvenirs de voyage plutôt, je sais pas, plutôt traditionnels. Ne ramenez pas avec vous des super bactéries résistantes aux antibiotiques. C'est pourtant une étude récente de l'université de Maastricht qui démontre qu'au retour de leurs vacances dans des pays exotiques, eh bien, des voyageurs danois ont rapporté chez eux tout un panel de bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques parce qu'elles aussi, elles ont voulu voyager. En fait, ce sont précisément une étude qui a porté sur les Danois en partance pour 4 régions. L'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est. Et ces 2000 Danois ont accepté de participer à cette expérience. Avant leur départ en vacances, ils se sont pliés à un prélèvement par écouvillon d'une certaine partie du corps que je n'évoquerai pas parce qu'il est midi. Et le même prélèvement a été fait à leur retour après un séjour compris entre une semaine et 3 mois. Et les chercheurs ont pu comparer la composition de ce qu'on appelle les résistomes, c'est-à-dire l'ensemble des gènes bactériens de résistance qui sont présents dans leur microbiote. Donc c'est un petit peu les micro-organismes que l'on a dans notre corps, notamment au niveau des intestins, et ils ont pu faire une petite comparaison entre avant et après le voyage. Certaines bactéries qui vivent justement dans nos intestins ne sont pas cultivables en laboratoire, et donc pour contourner ce problème, les chercheurs ont utilisé une autre approche qui est une approche plutôt de séquençage de l'ADN. Résultat, eh bien, les scientifiques ont pu exploiter les échantillons de ces Danois dont on s'est rendu compte que, justement, on a eu des bactéries qui étaient assez résistantes et qui sont vraiment résistantes. On en a dénombré 56. Plusieurs sont considérées à haut risque parce que les bactéries sont capables de pouvoir provoquer des infections. Et le problème, c'est que les antibiotiques utilisés, eh bien, ne servent à rien parce qu'elles sont résistantes. C'est par exemple le cas d'une bactérie qui a une résistance à un antibiotique prescrit en dernier recours contre une certaine catégorie de bactéries. Eh bien, celle-ci résiste quand même. C'est dire que ça peut être assez inquiétant. Les auteurs de cette étude prennent très au sérieux ces bactéries voyageuses et du coup, ils écrivent même que la multiplication des bactéries super résistantes aux antibiotiques pourrait menacer 70 ans de progrès dans le traitement des maladies infectieuses d'origine bactérienne, disent-ils dans leur article. En tout cas, voilà, c'est pas si drôle que ça. Faites attention, bien évidemment. Et du coup, parce que ça va pouvoir maintenant, étant donné que les frontières et que les avions redémarrent et redécollent plutôt, eh bien, les voyageurs vont pouvoir essayer d'aller un petit peu partout dans le monde et revenir chez eux. Donc, il va falloir faire, bien sûr, assez attention. Mais c'est une information, voilà, dont on n'a pas, par contre, la date. Je ne sais pas à quel moment ça a été fait, parce que travailler avec 2000 Danois qui ont voyagé un petit peu partout dans le monde, je pense que c'est, à mon avis, une information qui date il y a 2 ans, mais en tout cas qui est toujours d'actualité, bien sûr, avec la reprise de l'activité. Toujours lié à cette crise sanitaire, épidémie, on a développé pas mal de nouveaux prototypes assez intéressants pour essayer justement de pouvoir se protéger. C'est le cas d'ailleurs d'un accessoire du quotidien qu'on manipule tout le temps, qu'on a sur le visage, c'est la paire de lunettes. Du coup, selon une étude menée par un industriel qui avait mis en place les verres anti-reflets et un institut de médecine de l'université de Furtwangen en Allemagne, eh bien, on se rend compte que les lunettes sont particulièrement exposées aux microbes et aux virus en raison justement de cette position un peu centrale au niveau du visage. Et c'est plus inquiétant encore lorsqu'on sait que le virus de la COVID-19 peut survivre jusqu'à 72 heures sur l'inox et le plastique dont sont constitués la plupart des verres de lunettes. Et cette étude n'est pas restée à l'état de constat puisque cet industriel qui s'appelle Zeiss a souhaité innover avec une nouveauté un petit peu inédite. Ce sont les premiers verres de lunettes qui sont capables d'éliminer les virus et les microbes de façon automatique. Alors ça peut être intéressant du coup. Et on essaye d'en savoir plus avec cet article de Futura qui décline un petit peu et décrit cette innovation qui a été mise en place. Alors, L'idée, c'est pas de passer un produit sur les vers, c'est bien le traitement des vers qui délivre cette espèce de capacité auto-décontaminante. Et du coup, il faut essayer un petit peu de comprendre comment ça s'est mis en place. Et il faut des fois s'inspirer des connaissances du passé, nous dit-on, et c'est avec de l'argent. L'argent, le matériau, le métal, dont les propriétés antimicrobiennes sont connues depuis près de 2000 ans, que les scientifiques donc, de ce laboratoire R&D de l'entreprise Zeiss ont essayé de faire leurs expériences et ont donc ont pu développer cette innovation. Et tout se passe vraiment au niveau de niveau microscopique, voire microscopique. Oh, je vais y arriver. Il est temps que je parte en vacances. C'est vraiment au niveau de l'infiniment petit. On a voulu faire des études sur presque l'invisible. Et donc, on a voulu injecter des petites particules d'argent, mais vraiment minuscules. On n'y voit rien à l'œil nu en clair. Et du coup, on se dit qu'en insérant dans le verre ces éléments d'aluminium, d'argent, eh bien, du coup, on se dit que ça pouvait avoir une action antibactérienne et antivirus également. C'est ce qui semble être le cas, puisqu'on considère que ce nouveau verre qui a été expérimenté neutralise 99,9% des virus et des bactéries, donc c'est aussi efficace que de l'eau de Javel en clair, sauf que là on n'est pas sur de la Javel qu'on a sur les yeux, mais bien des toutes petites billes d'argent, des résultats qui ont été certifiés par différents organismes indépendants, nous dit-on, et selon des normes strictes qui sont propres aux bactéries et aux virus. Donc c'est bien une protection qui est contaminante, qui apparaît donc un petit peu comme un geste barrière supplémentaire, et c'est pas mal dans le contexte actuel. C'est invisible, et donc ça semble séduire les porteurs de lunettes, puisqu'ils seraient à peu près les deux tiers être intéressés par ce traitement, dit-on, dans une enquête Ipsos menée en mars. En tout cas, voilà, des verres de lunettes au pouvoir auto-décontaminant, c'est peut-être ce que l'on va avoir assez rapidement, ce qui serait donc un geste barrière supplémentaire, peut-être efficace, peut-être utile, et c'est tant mieux. Allez, on continue à écouter un peu de musique sur l'antenne de Graphite, et après on se retrouve pour continuer à feuilleter le grand livre de la vie. C'était Deeper avec Willing sur l'antenne de Graphite. Tous les samedis entre 12h et 13h, on parle de l'actualité scientifique. On a parlé des lunettes. Du coup, j'ai retrouvé pendant ce titre une autre information qui concerne les personnes qui sont myopes. En fait, c'est une autre épidémie qui progresse de façon inexorable. On considère que d'ici 2050, la moitié de la population mondiale sera myope. Alors, il y a des prédispositions génétiques et aussi de nombreux facteurs qui ont été avancés pour expliquer cette expansion. Le manque de lumière extérieure, le travail sur les écrans durs et un nouvel élément semble aujourd'hui s'ajouter à la liste, c'est le manque de sommeil. C'est plus exactement le dérèglement du rythme circadien. Il y a des chercheurs de l'université Flinders en Australie qui ont mené une étude auprès d'étudiants âgés d'une vingtaine d'années, myopes ou non, pour essayer de mesurer leur taux de mélatonine et leur rythme circadien. Et ils ont constaté que chez les personnes myopes, le temps de sommeil est décalé d'un peu plus d'une heure et que le niveau de mélatonine est environ 30% plus faible. Alors de façon générale, les myopes s'endorment plus tard, mettent plus longtemps à s'endormir et dorment moins longtemps que les personnes qui ne sont pas myopes. C'est ce qu'écrivent les auteurs de cet article. Parmi les responsables figure bien sûr le téléphone portable. Il y a beaucoup d'appareils numériques qui émettent de la lumière bleue qui peut supprimer la production de mélatonine et retarder le rythme circadien la nuit, ce qui entraîne un sommeil retardé, une qualité médiocre. C'est ce qu'explique Ranjay Chakraborty, qui est le principal auteur de cette étude. Et donc, en janvier dernier, il y a une étude qui avait montré que le confinement avait fait bondir la myopie chez les enfants, notamment en raison de l'usage prolongé des écrans et du manque de lumière du jour. Les spécialistes recommandent donc d'interdire l'usage des écrans le soir pour les enfants, sachant que la myopie se développe particulièrement à l'adolescence. Mais donc voilà, la myopie serait associée au manque de sommeil. C'est cette étude australienne qui nous donne cette information et que du coup, on considère que d'ici 2050, on ne se rend même pas compte, de la moitié de la population mondiale sera myope. Ok, bon, moi ça y est, c'est déjà fait, mais du coup, je ne pensais pas qu'on était sur un rythme assez important. Autre information, c'est on va partir en Chine, cette fois avec ce soleil artificiel chinois qui a battu son record de température. C'est un tomacac, c'est un engin imaginé par les physiciens pour produire de l'énergie par fusion nucléaire. Une énergie réputée propre parce qu'il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre, il n'y a pas de production de déchets radioactifs à haute activité. C'est une énergie réputée sûre et une énergie réputée illimitée. Encore faut-il que la température du plasma qui l'alimente soit suffisamment élevée et qu'elle puisse être maintenue à un niveau stable aussi pendant de longues périodes de temps. C'est ça qui est un véritable défi à pouvoir relever. Alors, l'objectif semble se rapprocher, notamment grâce à ce tokamak chinois qui, il y a quelques jours, au cœur de ce qu'on peut appeler un soleil artificiel, eh bien la température du plasma est montée, alors là, je vais vous donner le chiffre, on ne se rend même pas compte de ce que ça peut donner, là, du plasma est montée à 120 millions de degrés Celsius. Alors déjà, quand il fait 50 degrés, on étouffe, je ne sais même pas ce que c'est que 50 degrés, déjà 40 degrés, c'est la canicule, là, on est à 120 millions de degrés Celsius, vous imaginez quand même, et on a réussi à maintenir cette température pendant 101 secondes, une minute et demie à peu près. C'est assez fascinant. Et le réacteur à fusion nucléaire expérimental a atteint 860 millions de degrés Celsius. On ne sait même pas ce que c'est. Les chercheurs qui travaillent sur ce tokamak chinois sont enthousiastes. Ils évoquent, grâce au maintien d'une température de plus de 100 millions de degrés Celsius pendant un temps certain, le passage d'une étape clé pour la production d'énergie par fusion nucléaire. Donc on est en train d'assister à un véritable progrès scientifique, technique important. L'objectif de ce tokamak chinois, c'est de parvenir à maintenir une température de 100 millions de degrés Celsius pendant 1000 secondes. Donc dans un temps quand même un petit peu plus long, mais 1000 secondes, c'est quelques minutes. Les ingénieurs reconnaissent donc que la route est encore longue, mais la pente est forte, nous dit-on. Ils estiment même que le premier soleil artificiel ne devrait pas être fonctionnel avant au moins 30 ans. Donc on aura le temps d'en reparler, bien sûr. Quoi qu'il en soit, le tokamak chinois est l'un des engins satellites du projet de réacteur thermonucléaire expérimental international qui est le projet ITER. ITER, c'est notamment un projet qui se trouve à Cadarache dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et un projet qui mobilise pas moins de 35 pays pour un réacteur qui ne devrait pas produire son premier plasma avant fin 2025. Fin 2025, c'est bientôt, c'est demain, c'est dans 3-4 ans, on pourra avoir les premiers résultats, mais en tout cas, on est sur le développement d'une nouvelle technologie, parce que là encore, l'énergie est l'un des grands défis de ce 21e siècle. À la fois l'énergie et le réchauffement climatique, il va falloir lier un petit peu les pour trouver des solutions alternatives qui vont nous permettre justement d'avoir l'énergie parce qu'il nous faut de l'énergie, tout en maintenant bien sûr le climat et d'avoir un développement durable de qualité. Et donc cette fusion nucléaire et cette expérimentation qui a eu lieu il y a quelques jours en Chine est un véritable progrès, bien sûr, parce qu'on est sur la piste d'une nouvelle technologie qui pourrait être ensuite déployée à grande échelle sur Terre dans quelques décennies, bien sûr. À voir, on verra plus tard, mais c'est en tout cas quelque chose d'assez fantastique, parce que là encore, c'est un défi à relever, bien sûr, au niveau de l'énergie. Allez, on continue à écouter un peu de musique pour cette dernière de la saison, et on se retrouve juste après sur l'antenne de Graphite.
Midohidoma, je t'aime. Je t'aime. C'est difficile de mentir. C'est difficile de marcher sur un fil. C'est difficile de marcher. De vide entre deux vies. C'est difficile. Maman, souvent je pense à toi. C'est difficile. Je fais quelque chose sans toi. C'est difficile. C'est difficile. J'ai fait quelque chose sans ton accord. C'est difficile. C'est difficile. Je suis parti sans te dire au revoir. Maman, tu me manques énormément. Maman, tu me manques énormément. C'est difficile. C'est difficile. Ça fait 3 ans maintenant. Je pense à toi. C'est difficile, maman, c'est difficile. C'est difficile, maman, c'est difficile. J'espère bientôt on se verra. Ainsi que les petits frères. C'est difficile, maman, c'est difficile. Midori doma, bimbi, peki, midola. Mido mijo, fi mada, nwa wata, wande, sang mada, mido woni, bindema, mido wot iti, kono sakfa, hara mido bindema, nene, mido hidoma, je t'aime, je t'aime, nene, mido hidoma, je t'aime pour toujours. Je t'abandonnerai jamais. Un jour, maman, je reviendrai. Je reviendrai à tes lumières. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. On est là à cause de. Sous l'ombre de. Emmaüs. C'est difficile. C'est difficile, c'est difficile. Tout le monde, beaucoup d'ethnies, de tant de pays. C'est difficile, c'est difficile. On est fiers d'être des Français, des Guinéens, des Soudanais, des Afghans, des Sénégalais. C'est difficile, c'est difficile, c'est difficile.
c'est Difficile Ignatus sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur graphite.net. Pour ceux qui nous écoutent sur Internet et le 94.9, pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, bien sûr, vous avez aussi la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts de cette émission sur le site internet graphite.net et de suivre l'actualité de Graphite sur la page Facebook. Et aussi suivre l'actualité sur le compte Instagram. Deux petites informations concernant les animaux, parce qu'on en parle aussi dans cette émission. Premièrement, il y a des choses qui sont assez bizarres, mais qui ont été mises en place. Ce titre de Futura Science qui intrigue, des souriceaux qui sont nés d'un sperme qui a passé des années dans l'espace. Alors déjà, quand vous avez un titre comme ça, vous êtes obligé de cliquer parce que sinon, vous avez l'impression de passer à côté de quelque chose. Donc nous allons évoquer cet article qui nous explique que sur Terre, nous sommes relativement bien protégés par notre planète, mais dans l'espace, les choses, on le sait, sont différentes. Les astronautes sont exposés à des rayonnements qui pourraient être nocifs. Et c'est pour en savoir plus à ce sujet que des chercheurs de l'université de Yamanashi au Japon ont envoyé du sperme lyophilisé de 12 souris vers la Station Spatiale Internationale. Et pour déterminer les effets de ces rayonnements sur la fertilité des mammifères, on a donc mis en place cette expérience. Et les résultats ont de quoi surprendre, parce qu'on s'est rendu compte que même après plus de 6 années passées dans l'espace, eh bien, l'ADN des noyaux des spermatozoïdes de souris semble ne pas avoir subi de dommages importants, alors même qu'ils ont été exposés à des rayonnements ionisants connus pour endommager l'ADN et de pouvoir déclencher des mutations. Et justement, après avoir réhydraté le sperme revenu donc de la Station Spatiale Internationale, où on utilise tout simplement de l'eau, c'est pas compliqué, c'est comme une soupe en pareil, et bien les chercheurs ont injecté ce sperme dans des cellules ovariennes de souris, et donc les mères porteuses ont ensuite donné naissance à des souriceaux, et on s'est rendu compte que ces souriceaux étaient parfaitement sains et sans défaut, nous dit-on. Certains ont même déjà pu eux-mêmes avoir d'autres petits, mais ces résultats devront encore être confirmés par des analyses ADN. Alors les chercheurs imaginent déjà que les futurs colons humains qui vont faire le voyage vers Mars pourront emporter avec eux du lyophilisé de chat ou de chien afin de recréer sur place des populations d'animaux de compagnie. Voilà, donc on n'aura plus qu'à rajouter de l'eau et ça se fera tout seul. D'autant que les chercheurs concluent qu'ainsi préparé, eh bien, le sperme pourrait se conserver dans l'espace jusqu'à 200 ans. L'idée pourrait peut-être aussi s'appliquer aux humains, nous dit-on. Prochaine étape pour les scientifiques japonais, c'est d'étudier le développement d'embryons de mammifères dans un environnement zéro gravité. Et donc, des échantillons partiront pour la Station Spatiale Internationale d'ici quelques semaines. Alors, on suivra ça parce que c'est quand même assez fascinant, ces expériences que l'on fait. Je ne sais pas, il y a des moments où je n'arrive pas à croire ce que je lis, en fait. Vous savez, c'est ce moment un petit peu troublant où on se dit « non, c'est pas possible ». Eh bien, si, c'est possible, vous voyez. Autre chose tout aussi inquiétant aussi, c'est ce qui nous est raconté par ces chercheurs qui nous avertissent depuis des années. Les singes, et notamment les grands, sont en danger d'extinction. La plupart des populations ont même déjà commencé à décliner. Les grands singes n'y échappent pas. Et une nouvelle étude qui a été menée par la Wildlife Conservation Society aux États-Unis qui prédit aujourd'hui un déclin massif de l'aire de répartition des gorilles, des chimpanzés, des bonhommes d'Afrique d'ici 2050. 2050, c'est demain en clair. En cause, le réchauffement climatique, les changements d'utilisation des terres et la croissance de la population humaine. L'étude repose sur une base de données spécifique qui contient des informations sur les populations de grands singes pour de nombreux sites, et ce sont des données qui sont collectées depuis 20 ans. Et les chercheurs ont travaillé sur ce qu'ils appellent le meilleur scénario et le pire scénario. Alors le meilleur, ça implique une baisse lente des émissions de dioxyde de carbone et la mise en place de mesures appropriées. C'est vraiment le meilleur scénario que personne ne croit. Bon, le pire scénario correspond au fameux business as usual, c'est-à-dire que les scientifiques table sur une perte de 85% de l'aire de répartition des grands singes et on va jusqu'à une perte de 94% et notamment des zones qui sont aujourd'hui non protégées. Alors les chercheurs rappellent que les grands singes pourraient adopter la stratégie des végétaux pour s'adapter au changement climatique, c'est-à-dire se déplacer en altitude. Mais ce sera seulement possible si les collines avoisinantes sont suffisamment hautes pour offrir un asile aux primates et aux végétaux et aux autres petits animaux dont ils se nourrissent. Mais même dans les régions montagneuses, les grands singes seront-ils réellement à même de pouvoir migrer en altitude? Eh bien, la question est posée, d'autant que le temps qui leur reste est compté, étant donné qu'on est sur une échéance de 2050. Alors, pour mettre en place des stratégies de conservation efficaces, eh bien, il faudra désormais prendre en compte à la fois les aires protégées existantes et celles que pourraient proposer les modèles des chercheurs. Les régions dans lesquelles les grands singes vivent aujourd'hui et celles dans lesquelles ils pourraient être amenés à vivre demain. Ces stratégies doivent ainsi intégrer la planification de l'utilisation des terres et les mesures d'atténuation et d'adaptation au réchauffement climatique. Il doit être une responsabilité mondiale pour arrêter le déclin des grands singes. La consommation de ressources naturelles extraites des pays de ces terres de répartition des grands singes, c'est un facteur majeur de leur déclin. Toutes les nations bénéficiant de ces ressources ont la responsabilité d'assurer un avenir meilleur aux grands singes, à leurs habitats et aux personnes qui y vivent en développant des économies plus durables. C'est ce qu'explique le principal auteur de cette étude, Aljmar Quell, dans un communiqué. En attendant, tous les grands singes d'Afrique sont classés en danger ou en danger critique par la liste de l'ONU. Mais en tout cas, on est vers un déclin massif des grands singes dans les 30 ans à venir, d'après cette étude. Voilà, c'était aussi ça qui a été un petit peu le fil rouge de cette année. On est sur un dérèglement climatique qui fait que on a des conséquences dramatiques de plus en plus, notamment sur la biodiversité. On écoute un dernier titre, ce sera le dernier titre de cette saison, et on se quittera pour évoquer une dernière petite information avant de partir en vacances. The End and Grand Years avec Last Exile to Nowhere sur l'antenne de Graphite. On va terminer avec cette dernière information qui est aussi inquiétante. Et finalement, ça prouve aussi que la technologie prend beaucoup d'avance. C'est une nouvelle qui fait trembler les experts du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans un de leurs rapports qui a été révélé par le site New Scientist, l'institution a révélé il y a quelques jours que l'année dernière, en mars 2020, en Libye, un drone d'attaque aurait ciblé et visé un combattant issu des rebelles dirigés par le général Khalifa Haftar. Cette attaque par drone n'a rien d'anodine, car elle a été menée de façon totalement autonome par l'aéronef. C'est une première, alors que les questions éthiques autour des armes autonomes létales commencent à se poser avec le déploiement dans de nombreuses armes d'un nouveau bestiaire d'armement létaux plus ou moins automatisé. Ce drone a été conçu par une entreprise turque. C'est un drone quadricoptère avec donc 4 hélices. Et il peut mener donc des attaques suicides avec sa charge explosive. Il est particulièrement adapté à la lutte contre les opérations terroristes. Et selon le Daily Star, lors de l'opération, le drone a engagé tout seul plusieurs cibles, dont des véhicules et des militaires, pour aboutir à tuer un soldat qui se repliait. Il est réglé en mode autonome et la liaison était totalement coupée vers son opérateur. Il a donc poursuivi sa manœuvre de ciblage afin de neutraliser ce qu'il considérait comme l'ennemi. Le drame, c'est que personne n'avait donc la capacité de pouvoir l'empêcher, même à la dernière seconde, de mener à terme sa funeste mission. Il s'agirait donc d'un dysfonctionnement, nous dit-on, plutôt que d'une volonté des militaires, puisque cette fonction autonome peut normalement être stoppée à n'importe quel moment par l'opérateur. C'est une révélation qui va sans doute ajouter de la matière en vue de l'établissement d'une réglementation sur les armes autonomes. Mais là aussi, il y a quelques années, dans cette émission, on parlait des drones, parce que c'était totalement inédit, innovant, et effectivement, on pouvait avoir des applications assez intéressantes. Et après, on a parlé des drones pour des livraisons de colis lourds, pour des livraisons de matériel médical, pour essayer d'atteindre des endroits difficilement accessibles, et ainsi de suite. Et donc là, on est toujours sur une technologie qui avance, et de plus en plus sur des questions d'ordre éthique, mais c'est sur plein de sujets. Dans cette émission, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, on est en train de voir que la technologie avance, bien évidemment, et où on ne se pose pas encore de façon assez spontanée et assez rapidement également des questions d'ordre éthique, parce que ça nous dépasse totalement. Il y a plein de sujets qu'on a évoqués, et donc le dernier, voilà, sur ces drones qui sont donc des armes autonomes. Le drone, il va tuer comme ça le mec tout seul. C'est quand même assez fascinant, vous voyez. Mais du coup, voilà, ça pose des questions qui ne sont plus du tout d'ordre purement technique, technologique, parce que la technologie avance, bien évidemment. Mais on est sur des questions plutôt d'ordre éthique. Et dans ces cas-là, bien sûr, il va falloir essayer de se poser enfin des vraies bonnes questions et de se mettre d'accord d'un point de vue international, pour essayer de définir, je ne sais pas, quelques règles de base. Il va falloir, je pense, s'y pencher assez rapidement, et quelles que soient les technologies, au niveau médical également, c'est un vrai sujet. Voilà, c'est aussi ça, cette émission Biotine, c'est d'essayer de se poser des questions et de prendre beaucoup de recul. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en début d'année 2021. Je vous souhaitais de prendre du recul et du bon sens. Le bon sens, c'est ce qui nous a manqué, on s'en est bien rendu compte, c'est dernier mois. Souhaitons que l'année prochaine sera une année pleine de bon sens. D'ici là, je vous souhaite de passer un bon été, de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour les autres également. Et on se retrouve à la rentrée de septembre pour une nouvelle saison de cette émission Biotine, tous les samedis à 12h sur l'antenne de Graphite. On parlera bien sûr de l'actualité scientifique. Vous avez compris que la science n'arrête pas, et donc du coup, on parlera bien sûr au niveau médical, de tout ce qui va être objet connecté, de tout ce qui va être énergie, tout ce qui va être réchauffement climatique, développement durable, et bien sûr l'espace, qui nous fera encore rêver pendant ces prochaines émissions tous les samedis. Merci à l'ensemble de l'équipe de Graphite, la direction de Graphite, pour me permettre de pouvoir vous présenter cette émission tous les samedis en totale autonomie, un petit peu comme le drone qu'on vient d'évoquer, bien sûr, ce qui est une véritable liberté pour moi. Merci à Brian, Léo, et puis merci à Mathéo pour la vidéo. On a eu plusieurs fois la possibilité d'avoir recevoir un Facebook Live. C'était la première fois pendant cette année et j'espère le retrouver bientôt. On se retrouve donc à la rentrée de septembre pour une nouvelle émission. J'espère que je serai accompagné cette année et que l'année prochaine donc sera un petit peu moins compliquée, on va dire, et qu'on reprendra un rythme un petit peu plus normal. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances, plein de santé, plein de bonheur et plein d'amour. Rendez-vous en septembre sur l'antenne de Graphite. Merci à vous, bonne journée, à bientôt. Au revoir.